Chapitre 48. En fin d'après-midi, par un temps lourd et humide, Richard et Jory arrivèrent sur le chantier. Dès qu'il découvrit l'ébauche de ce qui serait un jour le fief de Jagang, le sourcier n'en crut pas ses yeux. Aucun adjectif, à part peut-être démesuré, ne parvenait à qualifier ce projet. Combien d'hectares de terrain était-on en train de mettre à niveau avant de creuser les fondations? L'équivalent d'une petite ville au minimum. Comme des fourmis, des milliers de terrassiers travaillaient à modifier l'œuvre de la nature pour la rendre conforme aux désirs d'un seul homme. Se fichant comme d'une guigne du futur palais, Jory répondit à toutes les questions de Richard par de laconique.
« Ouais, je suppose. »
Sur le périmètre du futur bâtiment, les fondations étaient déjà en partie creusées. Du haut de la colline où il était, le sourcier put déterminer la forme qu'aurait le fief. Sa taille dépassait l'imagination, et tout ce que Richard avait pu voir jusque-là, y compris le palais des Inquisitrices en Aydindril et le palais du peuple de Darkenral. À cela, il convenait d'ajouter d'immenses jardins, où on avait déjà entamé la construction de fontaines plus grandes que l'immeuble où Nietzsche et Richard avaient trouvé une chambre. Toutes les voies d'accès passeraient sous des arches majestueuses, et les jardiniers s'étaient déjà lancés dans l'aménagement d'immenses labyrinthes de haies. Sur les collines environnantes, on avait planté des arbres avec une rigueur géométrique qui forçait l'admiration. En face de ce parc s'étendait un grand lac artificiel. Le plus petit flanc du bâtiment, du côté du fleuve, devait mesurer près de 1200 pieds de long. Des piliers de pierre dépassaient déjà de la berge, laissant supposer que certains éléments du complexe géant domineraient glorieusement les eaux. Des ouvriers s'affairaient également autour de ce qui semblait être l'ébauche de quais et d'une jetée, sans doute pour que l'empereur puisse s'adonner aux joies de la navigation de plaisance. Alter Rang se dressait sur l'autre rive du fleuve. Certains quartiers se trouvaient cependant du même côté que le fief, mais à une distance respectueuse. Avait-on démoli des centaines de bâtiments pour faire de la place à la démente réalisation architecturale de Jagang? Dans ce cas, le fief serait au cœur même de la cité, et des dizaines de voies pavées permettraient aux citoyens de l'ordre de venir admirer la splendide résidence de leur maître. Alors qu'elle sortait à peine de terre, une multitude de curieux se pressait déjà derrière les clôtures qui délimitaient pour le moment le chantier. Malgré la pauvreté qui régnait dans l'ancien monde, le palais de Jagang serait l'édifice le plus somptueux qu'aucun œil humain ait jamais contemplé. Des blocs de granit étaient entassés partout. De loin, Richard vit que des tailleurs de pierre s'affairaient à leur donner la forme requise, faisant résonner l'air du vacarme de milliers de masses et de burins. Bien entendu, il y avait aussi du marbre, de toutes les variétés et couleurs, et une impressionnante quantité de blocs de roches calcaires. Dans un coin du chantier, une longue colonne de chariots spécialement renforcée à cause du poids attendait d'en livrer de nouveau. Afin que les ouvriers spécialisés puissent travailler la pierre par tous les temps, on avait construit des abris assez grands pour accueillir la population d'un village moyen. Le bois de charpente, lui, était entassé un peu plus loin et couvert d'énormes bâches de toile huilée afin qu'il ne s'abîme pas. Un peu partout sur le périmètre des fondations, des hommes s'échinaient à préparer du mortier. Pour cet ouvrage, il en faudrait des milliers et des milliers de tonnes. L'atelier du forgeron était à l'écart du chantier, au bout d'une route qui serpentait sur le flanc d'une colline. Tous les artisans engagés comme sous-traitants s'étaient installés à cet endroit, plus vaste que bien des agglomérations visitées par Richard. La découverte du chantier le laissa un moment bouche bée. Penser que tous les palais qu'il avait vus étaient un jour sortis de terre de la même façon le stupéfiait. Comment aurait-il pu imaginer une telle fourmilière de travailleurs? Le gigantisme de tout cela avait de quoi déconcerter, même quand on n'éprouvait pas une once d'admiration pour l'ordre impérial. Quand ils furent arrivés, Jory tira sur les rênes de son attelage et s'arrêta pile devant la double porte d'un bâtiment en bois.
« Te voilà à pied d'œuvre !» dit le cocher.
Déjà un long discours pour cet homme d'un naturel laconique. Tirant de sous son siège une miche de pain et une gourde de bière, il sauta du chariot et s'éloigna en quête d'un coin tranquille où il pourrait se reposer en attendant que son collègue en ait terminé. La chaleur qui filtrait des portes de la bâtisse prouva à Richard qu'il était bien devant l'atelier d'un forgeron. Sans grande surprise, il constata, après être entré, que les murs étaient couverts de suie. Tous les ateliers de ce genre partageaient cette caractéristique dans l'ancien comme dans le nouveau monde. Bien qu'elle fût d'une construction récente, l'installation de ce forgeron semblait avoir une bonne centaine d'années. Dans un incroyable fouillis d'outils, rangés sur des étagères ou entassés à même le sol, Richard identifia des pinces, des creusets, des moules, des équerres, des compas et des étaux de toutes sortes. Sur les établis déjà bancals, des matrices, des étampes et des meules voisinaient avec une foisonnante collection de masses, de maillets et de marteaux posés sur la tête pour être plus facile à saisir. Vu de loin, on aurait cru contempler une pelote d'épingles géantes. Sur le sol, dans un fantastique désordre, des caisses débordaient de rivets, de boulons, d'écrous et de cales. Entre les piles de barres de fer, Richard aperçut d'autres creusets, des lingotières, des cisailles, des longueurs de chaînes métalliques, des poulies et une kyrielle d'accessoires pour enclumes. Tout ce matériel était couvert de suie et de copeaux de métal. Près des bacs de trempe, des ouvriers travaillaient les barres de fer chauffées au rouge. Les martelant pour leur donner la forme voulue, il les plongeait ensuite dans l'eau, produisant une cacophonie de sifflements et de grésillements, comme si le métal protestait contre le traitement qu'on lui infligeait. D'autres spécialistes pliaient des pièces en se servant des pointes de leur enclume comme support. Procédant avec d'énormes pinces, ils s'interrompaient souvent pour comparer au modèle la pièce en cours de fabrication, puis recommençaient à jouer du marteau avec une précision impressionnante. Avec ce vacarme, Richard ne s'entendait plus penser. Dans un coin obscur, un ouvrier s'acharnait à faire fonctionner un soufflet en pesant de tout son poids sur l'énorme manche en bois de l'appareil. Non loin de là, la forge dont il entretenait les flammes rugissait comme une bête sauvage. Partout où il restait un peu de place, des seaux de charbon attendaient d'être jetés en sacrifice dans le feu. Le sol était jonché de pinces et de marteaux abandonnés par les ouvriers dans le feu de leur combat contre le fer rougeoyant. Comme dans tous les ateliers, le désordre régnait en maître, mais ici tous les records de fouilles semblaient être battus. Sur le seuil d'une grande remise, Richard repéra un type en tablier de cuir, qui étudiait une ardoise où figurait un schéma complexe. Se tapotant les lèvres avec sa craie, il semblait plus que perplexe devant l'entrelac de barres de fer qui gisait sur le sol de l'autre pièce. Ne voulant pas briser la concentration du type, Richard attendit en silence. Après une mûre réflexion, l'homme effaça une ligne sur l'ardoise, puis la redessina, modifiant ses points d'intersection avec les autres. Intrigué, Richard étudia le schéma, qui lui rappelait vaguement quelque chose. « Seriez-vous le propriétaire de cette forge ?» demanda-t-il quand l'homme tourna la tête vers lui. Sans répondre, le type le foudroya du regard. Les cheveux coupés très courts, une précaution judicieuse quand on travaillait à proximité des flammes. Il n'était pas très grand, mais très musclé, et sa façon de se tenir, le dos bien droit et le torse bombé, ne donnait pas très envie de lui chercher des noises. À la façon dont il le regardait, tous les ouvriers redoutaient cet homme. Cédant à une bizarre impulsion, Richard désigna sur l'ardoise la ligne que le forgeron venait de tracer. « C'est une erreur, » dit-il. « Vous venez de vous tromper. Le haut de la pièce de soutien est où il faut, mais pas le bas, parce que... »
« Tu sais ce que nous sommes en train de fabriquer ?»«
Pas exactement, mais... »«
Alors pourquoi te permets-tu de dire où doit aller la barre de soutien ?»
Furieux, le forgeron semblait brûler d'envie de jeter l'importun dans la forge, histoire de le faire fondre avec la fournée de métal suivante.
« C'est vrai, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais il me semble que... »«
J'espère que tu es le type chargé de me livrer des barres de fer. »«
C'est ça, oui, »
répondit Richard, pas mécontent de changer de sujet, et certain qu'il fermerait sa grande gueule la prochaine fois.
« Où dois-je ? »
« Qu'as-tu fichu toute la journée ?»
coupa le forgeron.
« On m'a dit que tu serais là dès le lever du soleil. Tu as fait la grasse matinée ou quoi ?»«
Sûrement pas, messire. Nous sommes passés à la fonderie dès l'aube, mais on n'a pas pu s'occuper de nous tout de suite parce que... »«
Je me fous des explications. Tu as mon matériel, il est tard, et tu devrais te dépêcher de le décharger. »
Richard regarda autour de lui et fit la moue.
« Et où suis-je censé le mettre ?»
Le forgeron foudroya du regard plusieurs piles d'outils, comme s'il avait pu les faire fondre par enchantement.
« Si tu étais arrivé à l'heure, tu aurais pu le laisser juste derrière la porte de l'entrepôt extérieur. Mais on nous a livré un grand bloc de pierre. Donc tu devras empiler les barres tout au fond de la pièce. Tant pis pour toi. La prochaine fois, lève-toi plus tôt.
Bien qu'il s'efforçât de rester poli, Richard commençait à en avoir assez de se faire malmener parce que le forgeron avait eu une mauvaise journée où s'était levé du pied gauche.
« Ishak vous a promis la livraison pour aujourd'hui et me voilà. Personne d'autre n'aurait pu faire si vite. »
Pour la première fois, le forgeron regarda vraiment son interlocuteur. Sentant qu'un orage menaçait, les ouvriers les plus proches découvrirent soudain qu'ils avaient affaire ailleurs.
« Combien de barres m'as-tu apporté ?»«
50, de 8 pieds de long. »«
J'en ai commandé 100. Pourquoi Ishak a-t-il envoyé un abruti avec ce chariot ?»«
Vous voulez avoir une explication ou continuer à vous défouler sur quelqu'un ?» Si Braillé vous amuse, allez-y, parce que les injures ne me gênent pas. Sinon, taisez-vous et vous saurez tout. »
Le forgeron dévisagea Richard un moment. On eût dit un taureau importuné par un bourdon.
« Quel est ton nom ?»«
Richard Cypher. »
« Alors, ces explications, elles viennent, Richard Cypher ?»
La fonderie aurait aimé honorer votre commande et elle aurait eu de quoi. Hélas, il y a les quotas de livraison. Un inspecteur de transport m'a interdit de prendre les 100 barres pour ne pas léser les autres compagnies. Elles ont toutes des problèmes en ce moment.
Sauf celle d'Ishak, si j'ai bien compris. Mais il n'a pas le droit de me livrer 100 barres de fer.
C'est exactement ça.
La fonderie veut me vendre ce qu'il me faut, mais il n'y a aucun moyen d'assurer le transport du produit.
J'aurais fait un deuxième voyage aujourd'hui, dit Richard, mais on ne me donnera pas d'autres barres avant une semaine au plus tôt. « Vous devriez contacter les autres compagnies de transport. Qui sait, l'une d'entre elles a peut-être encore un chariot en état de rouler. »
Pour la première fois, le forgeron eut un petit sourire.
« Tu crois que je n'y ai pas pensé? Mais Ishak est le seul en mesure de travailler pour le moment. »«
Au moins, vous aurez 50 barres. »«
Qui me suffiront à peine pour ce soir et demain matin. Suis-moi, je vais te montrer l'endroit où décharger. »
Le forgeron guida Richard jusqu'à une porte latérale, puis s'engagea dans un couloir très court. Au bout, ils entrèrent dans un bâtiment relié à l'atelier, mais effectivement indépendant en termes d'architecture, d'où son nom d'entrepôt extérieur. Le forgeron dénoua la corde attachée à un piton, ouvrant ainsi le rideau de toile qui obstruait une grande fenêtre au plafond. Richard regarda l'énorme bloc de marbre qui se dressait au centre de l'entrepôt. Dans l'atelier d'un forgeron, un tel objet semblait totalement déplacé. On l'avait bien entendu fait passer par les grandes portes, à l'autre bout de la bâtisse, sans doute en le tractant sur une plateforme spéciale. Tout autour, il restait assez de place pour les barres de fer.
« Tu mettras ton chargement sur le côté droit, » dit le forgeron. « Fais attention quand tu manipuleras les barres. »
Richard sursauta. Fasciné par la beauté du bloc de pierre, il avait presque oublié son compagnon.
« N'ayez crainte, je n'abîmerai pas le marbre. »
Alors que le forgeron se détournait, Richard le rappela.
« Je vous ai dit mon nom. Puis-je savoir le vôtre ?»«
Casquella. » »«
Vous n'avez pas de prénom ?»«
Si, maître. Surtout n'oublie pas de le mentionner à chaque fois que tu me parles. »
Richard sourit en emboîtant le pas à son guide.
« Très bien, messire, maître Casquella. » Ai-je l'autorisation de demander à quoi servira le bloc de marbre ?
Casquella ralentit le pas, puis se retourna et contempla le monolithe comme s'il s'agissait d'une femme aimée.
« Ça ne te regarde pas, mon gars. »«
Je sais, mais c'est si beau. Je n'avais jamais vu un bloc de marbre brut avant qu'on l'ait taillé ou sculpté. »«
Il y a du marbre partout sur ce chantier. Des tonnes et des tonnes. C'est un simple bloc, rien de plus. » « Maintenant, dépêche-toi de décharger ma commande. »
Quand il eut terminé, Richard était en sueur et couvert de crasse. Pas seulement à cause des barres de fer, mais surtout parce qu'il était maculé de suie jusqu'au front. Détestant être sale, il demanda s'il pouvait utiliser le baquet d'eau mis à la disposition des ouvriers, afin qu'il se débarbouille un peu avant de quitter l'atelier. Par bonheur, on lui accorda l'autorisation de faire une rapide toilette. Lorsqu'il fut à peu près propre, il voulut sortir et passa devant Maître Casquella, désormais seul dans l'atelier. Perplexe, il étudiait le schéma sur l'ardoise, apportant quelques corrections et inscrivant des chiffres tout autour.
« Maître Casquella, j'ai fini. Les barres sont rangées sur un côté, loin du bloc de marbre. »
Merci.
Si je vous demandais combien vous avez payé pour ces 50 bars, ça vous ennuierait?
Fichtrement, oui. En quoi ça t'intéresse?
Eh bien, l'homme de la fonderie m'a dit qu'il espérait pouvoir vous livrer le tout afin de toucher 6 pièces d'or. Puisque vous avez seulement la moitié du matériel, je suppose que ces 50 bars vous ont coûté 3 pièces d'or. C'est exact?
Qu'est-ce que t'en as à fiche?
Eh bien, je me demandais si en avoir 50 de plus pour 2 pièces d'or et une d'argent vous intéresserait.
Tu es un voleur en plus d'un casse-pied?
Pas du tout, maître Casquella.
Alors, comment penses-tu pouvoir me vendre 50 bars pour 1 pièce d'argent de moins? Tu as un gisement de minerai dans ta chambre, Richard Cypher, et tu l'exploites la nuit?
Si ce que j'ai à dire ne vous intéresse pas, je peux aussi m'en aller.
Parle, on ne sait jamais.
L'homme de la fonderie est furieux, parce qu'il n'a pas pu honorer votre commande. Ses stocks débordent et les compagnies de transport le laissent tomber. Du coup, il est prêt à me vendre son fer moins cher.
Pourquoi?
Il a besoin d'argent. Ses fours sont arrêtés, ses ouvriers réclament leur salaire, et il n'a même plus de quoi acheter du charbon, du minerai ou d'autres produits. Bref, il n'a plus rien, à part des produits finis qu'il ne parvient pas à vendre. Quand je lui ai demandé à combien il me céderait les barres si je me chargeais de les transporter, il m'a conseillé de revenir après le coucher du soleil. À l'abri des regards indiscrets, il est prêt à me laisser le matériel pour 2 pièces d'or. Si vous me les rachetez 2 pièces d'or et 1 d'argent, vos produits seront là demain matin. Casquella ouvrit des yeux ronds, comme si Richard était une barre de fer qui venait soudain de prendre vie pour lui proposer une affaire.
Tu sais que je suis prêt à les payer 3 pièces d'or. Pourquoi me fais-tu un cadeau?
J'ai 2 raisons, expliqua Richard. Primo, je vous consens une réduction pour que vous reveniez vers moi chaque fois que vous aurez besoin de barres. Secondo, avant de lancer l'opération, je devrais vous emprunter 2 pièces d'or pour pouvoir payer le fondeur, parce qu'il ne me fera pas crédit, vous le savez très bien.
Et si tu disparais avec mon argent?
Vous avez ma parole d'honneur.
Et alors? Je ne t'ai jamais vu avant aujourd'hui.
Vous connaissez mon nom? De plus, Ishak a une peur bleue de vous, et il compte sur moi pour vous livrer, histoire que vous ne veniez pas lui tordre le cou.
Je ne ferai jamais ça. J'aime bien Ishak, tu sais. Il n'est pas dans une position facile, j'en ai conscience. Surtout, ne lui répète pas ça parce que je tiens à le garder sous pression.
Si ça vous chante, je lui cacherai que vous pouvez être sympathique de temps en temps. Mais si j'ai bien compris, vous n'êtes pas dans une situation plus enviable qu'Ishak. L'ordre exige que vous lui livriez des outils et sa façon d'organiser le travail vous en empêche. Casquella eut un sourire désarmant de bonhomie.
« Alors, Richard Cypher, quand seras-tu là avec ton chariot ?»«
Je n'ai pas de véhicule, mais si nous concluons le marché, 50 bars seront rangés près des autres dès demain matin. »«
Tu comptes me les livrer à pied ?»«
C'est ça. »«
Bon sang, t'es cinglé !»«
Chariot ou pas, je veux gagner de l'argent. »« La distance n'est pas énorme et je peux porter 5 bars à la fois. En 10 voyages, ce sera fait. »« Marché ne m'effrayant pas, j'en aurai fini à l'aube. »
« Dis-moi pourquoi tu fais ça. Ce n'est pas simplement l'appât du gain, n'est-ce pas ?»«
Ma femme n'a pas assez à manger. Comme je suis un ouvrier productif, le groupe me prend presque tout mon salaire pour aider les infirmes, les malades et les paresseux. Parce que je suis dur à la tâche, on fait de moi l'esclave de ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas travailler. Ce système encourage les gens à laisser les autres prendre soin d'eux. Moi, je déteste être un esclave. En vous consentant un prix, j'espère que vous ferez appel à moi régulièrement. » Chacun y gagnera quelque chose, et c'est très bien comme ça.
Si j'accepte, que feras-tu de tout cet argent? Tu te reposeras un moment ou tu boiras tout en 2 jours?
Non, j'achèterai un chariot et un attelage.
Pourquoi faire?
Vous livrez plus vite le matériel que vous me commanderez, puisqu'il est moins cher qu'ailleurs.
Tu veux finir inhumé dans le ciel?
Richard eut un petit sourire. Non, pas du tout. Mais j'ai réfléchi. Et conclut que l'empereur tenait à ce que son palais soit construit vite. Beaucoup d'esclaves travaillent sur le chantier, essentiellement des prisonniers de guerre. Mais ils ne peuvent pas tout faire, il faut des gens comme vous, ou le fondeur. Si les chefs locaux de l'ordre sont malins, ils fermeront les yeux, plutôt que de devoir expliquer à l'empereur pourquoi le chantier n'avance pas. Dans les cas comme celui-là, il y a toujours moyen de se débrouiller.
Je devrais sans doute verser quelques pots de vin, mais c'est déjà prévu dans mon budget.
Vous aurez dû faire moins cher et en temps voulu. Aujourd'hui, vous êtes à court de matières premières alors que vous la payez au prix fort. Chacun de nous y gagnera.
Casquella réfléchit un moment, comme s'il cherchait le défaut caché du plan de Richard.
Tu es l'escroc le plus stupide que j'ai jamais rencontré, ou... Je ne parviens même pas à trouver une définition. Mais j'ai le frère Narev sur le dos, et ce n'est pas très plaisant. Je ne devrais pas t'en parler, mais tant pis. Ishak a peur de moi, dis-tu? Eh bien, je tremble 10 fois plus devant le frère Narev, chaque fois qu'il vient me demander pourquoi ses outils ne sont pas prêts. Les prêtres se fichent de mes problèmes, ils exigent et je dois me débrouiller.
Je comprends, maître Casquella.
Marché conclu, Richard Seifer. 50 bars pour 2 pièces d'or et 1 d'argent. Mais tu auras ton bénéfice demain, quand je verrai mes bars. Pour l'instant, je t'avance simplement 2 pièces d'or pour acheter le fer.
Ça me va très bien. Mais dites-moi, qui est le frère Narev?
C'est le haut prêtre de... Ai-je bien entendu quelqu'un mentionner mon nom?
Lança soudain une voix. Richard et maître Casquella se retournèrent. Un homme approchait d'eux. Vêtu d'une soutane, un calot sur la tête, il marchait à grandes enjambées, ses yeux noirs nichés sous des sourcils broussailleux rivés sur le forgeron. Dans la pénombre, il ressemblait à un esprit du mal venu semer la terreur dans le monde des vivants.
Maître Casquella fit une révérence. Prudent, Richard l'imita.
Frère Narev, nous parlions de l'approvisionnement en fer. Où sont mes nouveaux burins, forgeron? Je n'ai pas encore. Des centaines de blocs de pierre attendent d'être taillés. Et des ouvriers restent à ne rien faire parce qu'ils n'ont pas d'outils. Tu ralentis la construction de mon palais. Frère Narev, je vous présente Richard Seifer. Il a eu une idée pour m'obtenir du fer et...
Silence!
Le frère Narev se tourna vers Richard.
Tu peux vraiment le fournir en matière première?
C'est possible, oui.
Dans ce cas, n'hésite pas.
À vos ordres, frère Narev.
Et maintenant, montre-moi ton travail, forgeron.
Casquella fit signe à Richard de l'accompagner, puis il s'éloigna avec le haut prêtre. Trop occupé pour l'instant par l'important personnage, le forgeron n'avait pas le temps de donner les 2 pièces d'or à son nouveau fournisseur. Richard s'empara de la lampe que Casquella désigna en claquant des doigts, l'alluma et rejoignit les 2 hommes devant la porte de la pièce où se trouvait l'étonnante ossature métallique. Le forgeron prit l'ardoise et ordonna à Richard de l'éclairer. Le frère Narev étudia le schéma, puis le compara aux produits en cours de fabrication. Sur l'ardoise, il désigna la ligne que Richard avait jugée erronée. À cet instant, le sourcier, laissant soudain glacé, comprit ce qu'était l'étrange ossature métallique.
« Ce support-là n'est pas bon !»
grogna le frère Narev.
« Mais il faut bien que j'équilibre le poids.
Je t'ai chargé d'ajouter des entretoises, pas de saboter le concept original. Le haut du support peut rester où il est, mais le bas doit être fixé là. »
Exactement à l'endroit où l'aurait mis le sourcier. Casquella se gratta le crâne et tourna brièvement la tête pour jeter un regard noir à Richard.
« C'est faisable, »
finit-il par dire.
« Ce ne sera pas facile, mais... »«
Je me fiche que ce soit compliqué. Rien ne doit être fixé à cette zone-là, c'est compris ?»«
Oui, frère Narev. »«
Elle doit être parfaitement lisse, pour qu'on ne voit aucun joint quand elle aura été dorée à leur fin. »« Mais d'abord fabrique-moi ces maudits burins. »«
Ce sera fait, frère Narev. »
Estimant que le sujet était clos, le haut prêtre se tourna vers Richard et le dévisagea.
« C'est étrange, mais tu me dis quelque chose. Je te connais ?»«
Non, frère Narev. Si je vous avais rencontré, je m'en souviendrais. On ne croise pas souvent des hommes de votre envergure. »«
Tu n'as pas tort. Tu livreras son fer au forgeron ?»«
Comme prévu, oui. »«
Eh bien, j'espère que tu tiendras parole. »
Très mal à l'aise, Richard tenta machinalement de vérifier que l'épée de vérité coulissait correctement dans son fourreau. Bien entendu, il ne la trouva pas sur son flanc gauche. Le frère Narev sembla vouloir dire quelque chose, mais son attention fut détournée par l'arrivée de deux jeunes hommes vêtus comme lui, à l'exception du calot, car leur soutane était à capuche.
« Frère Narev !»
appela le plus petit des deux.
« Qu'y a-t-il, Neil ?»«
Le livre que vous attendiez est arrivé. Nous sommes venus vous prévenir tout de suite, comme prévu. »
Narev fit signe à ses deux disciples de l'attendre, puis il foudroya une dernière fois du regard ses deux interlocuteurs.
« Ne me décevez pas !»
dit-il. Richard et Casquella, la tête inclinée, attendirent en silence que le haut prêtre et ses compagnons soient sortis de l'atelier. Aussitôt, l'atmosphère s'allégea considérablement.
« Viens, dit le forgeron, je vais te donner l'or. »
Dans un très petit bureau, il ouvrit le coffre-fort installé sous les tréteaux qui lui tenaient lieu de bureau et en sortit deux pièces d'or.
« Victor !»
dit-il en l'étendant à Richard.
« Pardon ?»«
C'est mon prénom. Je m'appelle Victor Casquella. »